Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
On retrouve Clément Moutier.
Canal Académie reçoit aujourd'hui André Demontois, ancien docteur vétérinaire, qui est l'auteur d'un dictionnaire des chiens illustres aux éditions Honoré Champion, mais attention, un dictionnaire des chiens illustres à l'usage des maîtres cultivés. Monsieur Demontois, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans le studio de Canal Académie. Alors, dans cet ouvrage, vous avez recensé tous les chiens qui étaient intimement liés à la vie de grands hommes ou de grandes femmes. On y retrouve des chiens militaires, des chiens politisés, des chiens d'écrivains, de chanteurs, des chiens de police, des chiens qui, finalement, sont rentrés dans l'histoire. Alors, ma première question sera, mais comment vous avez pu faire pour entreprendre un tel projet ? Parce qu'avec quoi vous vous êtes documenté ?
Alors, tous les chiens, ça n'est peut-être pas sûr. Ensuite, j'ai une bibliothèque qui est assez considérable dans beaucoup de domaines, l'histoire, la littérature, bien sûr les chiens. Et puis, j'ai consacré le temps que j'avais entre mes consultations, parce que ça, c'est le gros intérêt d'un dictionnaire, on marche par rubrique. Donc, on n'est pas obligé d'avoir un texte qui se suit. Et donc, ça m'a permis de faire ce dictionnaire. Vous avez oublié, dans les chiens illustres, les chiens qui sont traités par groupe. Ceux qui ont fait la guerre du Vietnam, ceux qui ont fait la guerre de 14-18.
Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu, André Demontois, quand a apparu la première domestication du chien ? Est-ce qu'on a à peu près une date ? Est-ce que vous, vous en parlez dans cet ouvrage ?
Je n'en parle pas dans cet ouvrage, mais on a quand même des notions relativement précises. Alors, les données de l'archéologie nous donnent du moins 10 000 à peu près, avec des formes intermédiaires qu'on retrouve dans l'Altaï qui me datent de moins 26 000. Mais c'est vraiment très particulier. Alors, la paléogénétique est allée dans deux sens. D'abord, il y a un Suédois qui a travaillé en collaboration avec des Chinois qui date le début du chien d'environ vers moins 16 000 à partir du loup, bien sûr, au sud du Yangtze. Il y est parvenu à ses conclusions par deux méthodes. La recherche de l'ève originelle à partir de l'ADN des mitochondries qui se transmet de mère à mère et à partir de la recherche du père originel, c'est-à-dire l'étude des différentes sections du chromosome Y. Il semblerait que dans ce cas-là, le chien qui ait été obtenu ait eu surtout un usage alimentaire. Une autre étude qui a été menée à large échelle a été l'étude du génome du chien à partir d'universités américaines, sachant qu'on a deux génomes complets du chien, hein, et qui arrive à une domestication vers moins 12 000 dans la périphérie du croissant fertile. Donc on est au Moyen-Orient. On est vers moins 12 000, et ce qu'on est sûr, c'est que le gène qui est responsable de la taille chez le chien est originaire des loups du Moyen-Orient. Donc, je pense qu'il y a eu deux étapes dans la domestication, une première domestication très frustre, et une deuxième avec une sélection plus diverse d'animaux.
Et alors, est-ce que les maîtres, comme on le dit souvent, ressemblent à leurs chiens ou pas, monsieur
Demontois ? Alors, les chiens ressemblent à leurs maîtres, peut-être. Si, il y a quand même des caractères, hein. Mais quelquefois, le chien réhabilite le maître. On se dit, tiens, si le chien est comme ça, il y a peut-être, anguille sous roche, le maître est peut-être meilleur qu'on pense. Mais les civilisations ressemblent aussi aux chiens qu'elles créent. Par exemple, la Syrie a donné des molosses, qui étaient des chiens de guerre, alors que les premiers chiens qu'on voit dans la civilisation égyptienne sont des chiens de chasse et de compagnie.
Alors, on découvre peut-être le caractère de certaines personnalités grâce aux animaux qui les entourent, et notamment grâce aux chiens avec qui ils peuvent vivre, avec qui ils peuvent partager leur passion ou leur travail. Mais comment expliquez-vous que les grands personnages de l'histoire soient, comme on le remarque dans votre livre, entourés quasiment toujours par un chien ?
Il y a un président des États-Unis qui a dit « If you want a friend à la Maison-Blanche, vous prenez un chien ». C'est la solitude des chefs qui fait qu'un chien leur est vraiment utile.
Et alors, on va rentrer dans le vif du sujet avec ce dictionnaire des chiens illustres. Alors, tout d'abord, ce qui peut frapper, c'est le nombre, parce qu'on peut parler d'articles, le nombre d'articles qui mettent en valeur les chiens qui ont notamment aidé l'homme, surtout sur le plan médical. Je pense, par exemple, on en parlait tout à l'heure, au chien qui détecte le diabète, ce fameux chien Paco. Et il y a aussi les chiens d'aveugles, etc. Le chien a vraiment apporté beaucoup à l'homme.
Le chien a apporté, à mon avis, tout ce que l'homme a voulu lui demander. Par exemple, on a même des chiens qui servent à la traction. Dans les plaines, où c'était une grande tradition en Belgique, les charrettes à chiens. Vous avez des chiens qui actionnaient les machines, même. Il y a un article sur les chiens travailleurs au 19e siècle qui travaillaient. Et puis alors, surtout, ils ont été très utiles dans le Grand Nord. Ils ont fait des choses que les humains étaient incapables de faire. Donc il y a eu des chiens d'attaque, il y a eu des chiens de guerre, il y a eu des chiens de garde, il y a eu des chiens de chasse. Il semble que la chasse ait quand même été une des premières utilisations de l'animal. Et puis les chiens de compagnie, bien sûr.
Et dans le domaine médical, il y a cet article sur Brown Dog, un chien anonyme qui a servi à l'expérimentation animale. Est-ce que vous pourriez nous en parler ?
Oh, c'est toute une histoire, c'est beaucoup de procès. Ce qui est en cause, c'est ce qu'on appelle la vivisection. Alors, c'est vrai que le 19e siècle a fait une consommation considérable de chiens pour des expériences et des démonstrations qui étaient inutiles sans tenir compte de la douleur animale. Ceci étant, bon, il y a une statue du Brown Dog, hein,
voilà.
Enfin, une deuxième statue du Brown Dog. C'est la deuxième qu'il y a maintenant. Mais c'est vrai que ce qu'il faut absolument, c'est limiter la vivisection, à mon point de vue. Mais on ne peut pas complètement la supprimer. On n'aurait jamais découvert l'insuline. Excusez-moi, je suis diabétique, s'il n'y avait pas eu un petit peu d'expérimentation animale. Attention, ça se mesure, ça se limite et on évite la souffrance.
On apprend aussi, par exemple, que la chienne de Roosevelt a été honorée par un de ses discours. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu cette histoire ?
Alors, Roosevelt était l'objet de beaucoup de médisances. Et donc, ce qu'il a trouvé de mieux, il a fait un superbe discours. « Vous ne vous contentez pas d'attaquer ma personne et ma famille, mais vous incluez maintenant mon petit chien, Fala. Vos attaques ne m'offensent pas, mais par contre, Fala y est très sensible. Vous savez, Fala est écossaise. Étant écossais, dès qu'elle a appris que des romanciers républicains au Parlement ou ailleurs avaient concocté une histoire selon laquelle, après l'avoir abandonnée sur les îles Aléoutiennes, j'avais envoyé un destroyer la chercher avec un coup pour le contribuable de 2, 3, 8 ou 20 millions de dollars, son âme écossaise devient furieuse. Elle n'a pas été le même chien depuis. J'ai l'habitude d'entendre des mensonges malicieux me concernant, mais je ne pense pas que j'ai le droit d'exprimer mon indignation et mon opposition à l'encontre de vos propos diffamatoires sur mon chien. » Et ça a été un discours fameux qui a contribué à sa réélection.
Et alors, est-ce que vous pensez, monsieur de Montois, qu'aujourd'hui, par exemple, les politiques actuelles accordent moins d'importance à cet animal qu'est le chien ?
Alors, le dernier président français qui a eu un chien était Chirac. Il y en a eu un Sumo. Et puis, alors, maintenant, il a une femelle, je crois qu'il appelle Suma ou Sumette. Je ne sais plus. Mais c'est vrai que les deux derniers présidents, à ma connaissance, n'en ont pas.
Donc malheureusement, pour nous, et il y a eu ce fameux chien, vous le citez, le chien de Valéry Giscard d'Estaing également.
Jugurtha.
Voilà.
Surtout Baltique.
Baltique, on peut en parler dès maintenant, puisque j'allais en venir en parlant des chiens et la chanson, puisqu'on allait évoquer certainement Renaud.
Oui.
Mais évidemment, il y a eu François Mitterrand et son fameux chien Baltique qui l'attendait
à l'extérieur
Baltique, de l'église.
Mais Baltique, la chanson de Renaud est liée à la chienne de François Mitterrand.
Alors, est-ce que vous pourriez nous remémorer les funérailles de
François Mitterrand avait demandé que sa chienne participe aux funérailles, mais on n'a pas voulu la mettre à l'église et on l'a mis relativement derrière dans l'assistance. Et surtout, ce qui a été le plus choquant, c'est que personne dans la famille de François Mitterrand n'a voulu l'adopter. Et c'était un gardien de la garde républicaine affecté à l'Élysée qu'il a gardé avec lui. Je pense que c'était mieux pour elle. Mais il y a eu quelque chose d'extraordinaire en 1910, les funérailles d'Édouard VII. Il avait un chien qui s'appelait César. Et donc, quand il est mort, il a demandé à voir César, son chien. Il y a un livre qui a été publié sur la tristesse de son chien à la suite du départ du roi Édouard VII. Et donc, il s'appelait « Where's Master ?»« Où est le maître ?» Et les funérailles étaient quelque chose d'extraordinaire parce que quand on voit les photos, vous avez le corbillard, vous avez le chien, très loin derrière la famille royale et toute une multitude d'ambassadeurs en redingote, etc. derrière. Mais le chien est en premier. Les photos sont superbes.
Et il y a aussi des maîtres qui offrent des funérailles gigantesques à leurs chiens.
Oui. Bon, c'est un peu fantaisiste.
C'est un peu fantaisiste. Il y a aussi des chiens qui héritent de leur maître.
C'est très bien pour ceux qui s'occupent des chiens.
Voilà. Il y a toujours quelqu'un qui en profite. Mais revenons aux chiens voyageurs. Vous parliez des chiens dans le Grand Nord. Et il y a un article, moi, qui m'a interpellé. Ce sont ces chiens qu'on retrouve embarqués à bord des bateaux. Et alors, il y a cette phrase de Émile Richebourg qui dit qu'ils ont un droit inexorable de cité, c'est-à-dire qu'à l'époque, on embarquait des chiens sur les bateaux.
Oui, on embarquait des chiens sur les bateaux parce qu'ils étaient les compagnons des matelots, avec des noms extraordinaires, d'ailleurs, Trompe-la-Mort, enfin, il y en a quelques-uns comme ça. Mais là où les chiens avaient droit de cité. Alors maintenant, il paraît qu'il n'y a plus de mascotte dans la marine française, depuis les années 80, je crois. Par contre, ce qu'il y avait autrefois dans les sous-marins, c'était un chien. En fait, il était là pour détecter la présence de gaz carbonique au niveau du sol, puisqu'il était plus près du sol que les marins.
Et sur le pont, les chiens servaient aussi la nuit, pendant que l'équipage dormait, à repérer
les dangers. Le plus drôle des chiens de marine, c'est celui qui s'appelle Just Nuisance, qui a été embarqué dans la marine britannique en Afrique du Sud. Et on l'appelait comme ça parce qu'il était toujours sur l'escalier qui permettait de passer d'un pont à un autre. Il a sa statue en Afrique du Sud.
Et il y a aussi un cimetière des chiens, ce que j'ignorais, le cimetière d'Asnières.
Oui, qui est, alors là, vous avez tout un tas de gloires qui sont là. En particulier, vous avez Rintintin, que son maître a voulu faire enterrer en France parce qu'il l'avait trouvé en France.
Rintintin est cité dans votre dictionnaire, qui pourtant traite des chiens réels. Oui, et il sera aussi repris dans le
tome 2, ce sera plus conséquent.
Et alors, dans ce cimetière, est-ce que c'est récent ou pas que les maîtres comme ça aient envie d'enterrer leurs chiens? Parce qu'on a tendance à penser qu'on enterre son chien dans son jardin.
Est-ce que c'est une coutume qui est récente? En principe, c'est interdit, d'ailleurs. Maintenant, le mode normal pour le départ d'un chien, c'est l'incinération. Je sais que ça se fait dans les jardins. Je ne dénoncerai personne.
Mais voilà, mais il ne faut pas en parler. Alors, il y a aussi des records complètement farfelus que vous énumérez.
Oh, oui.
Si, il y en a quand même. Il y a des records très marrants, comme celui des chiens les plus intelligents.
Oui.
Alors, il y a des chiens qui arrivent à reconnaître des objets. Est-ce que vous pensez que les chiens, comme ça, peuvent développer une intelligence
La reconnaissance d'objets, oui, il y a des chiens. Je crois qu'on arrive à quelque chose comme 150 objets que l'on peut reconnaître. C'est remarquable, hein. C'est bien. Mais tous les chiens reconnaissent simplement là. Quand on dit 150, c'est parce qu'on les a entraînés à ça. Les chiens ont une reconnaissance des lieux, des personnages, des objets.
Des mots aussi, est-ce qu'on dit
Oui, des mots. Alors, il y a eu une supercherie qui était les chiens de Mannheim. Les chiens calculateurs de Mannheim, ils sont cités dans mon livre. Et donc, on faisait de véritables dialogues avec les chiens qui répondaient en frappant une fois ou deux fois ou trois fois selon la lettre d'alphabet. Mais là, je pense que c'est vraiment de la supercherie. Alors, il y en a un qui restait célèbre, hein, c'était Zou, notre célèbre chien Zou. Zou, chien savant, notre Zou national, voilà, sur lequel on a fait un superbe petit poème. Zou, ton joli nom, mon caresse et résonne, c'est une douceur de le prononcer, on dirait un vol d'essaim qui bourdonne et passe rapide à l'embutiner. C'est extraordinaire. Comment oublier l'éclair de sagesse qui vient sillonner ton regard humain lorsque gavrement près de ta maîtresse tu frappes le nombre au creux de sa main. Quel est le secret, quel est le symbole caché sous ton front, ton beau front soyeux? Je voudrais que Dieu t'offre sa parole que semble parfois réclamer tes yeux. En fait, c'est très bien, c'est le maître qui indique le nombre de coups qu'il faut frapper pour avoir la bonne réponse. Non, ça c'est...
Mais laissez-nous croire, monsieur de Montois, que quand même que les chiens...
Mais je pense que c'est un très beau spectacle.
Voilà. Et justement, dans la littérature, les hommes de littérature aussi étaient souvent accompagnés de chiens. Quel est pour vous l'exemple le plus...
L'exemple le plus émouvant, c'est certainement Émile Zola.
Qui a eu beaucoup, beaucoup de chiens.
Qui a eu beaucoup de chiens jusqu'à la fin de sa vie. Il a adopté des chiens qui étaient malades. Enfin, il a fait une description de la mort de son chien dans La joie de vivre. C'est complètement poignant. Le chien le plus drôle qui a été décrit par les écrivains, c'est Pritchard. Pritchard qui appartenait à Alexandre Dumas. Et qui était un pointer écossais, et qui était en fait un chasseur hors pair et un fugueur hors pair, et qui a mené une vie de bamboche tout à fait comparable à la vie de bamboche d'Alexandre Dumas. C'est pour ça qu'il l'a préféré. Et donc il partait, il n'y avait aucun moyen de le tenir à la tâche, il se débrouillait toujours de fuguer. Il avait organisé toute une compagnie, il invitait tous les chiens du voisinage à venir manger chez Alexandre Dumas. Il s'était accoquiné avec un chien espagnol pour faire la chasse au lièvre. C'est-à-dire qu'il partait à deux, il sentait le lièvre. Alors, le second se mettait sur la trace du lièvre, parce que le lièvre revient toujours quand il va quelque part sur la trace qu'il a semée. Et donc, Pritchard le détectait, il lui courait après, le deuxième prenait le lièvre, et après ça, ils faisaient un festin en commun. C'était très marrant. Et alors, comme ils étaient très intelligents pour pas se faire prendre, ils en attrapaient un second qui rapportait à Alexandre Dumas, histoire de dire qu'ils étaient des bons chiens. Et ce chien-là, il l'a comparé au maréchal de Saxe parce qu'il a pris des plombs, bien sûr, parce que de temps en temps, il allait là où il fallait pas, où il y avait d'autres chasseurs. Et puis, il s'est fait arracher un œil parce que quand Alexandre Dumas est allé voir une révolution, je crois que c'est 1830, qui avait lieu à Paris, il avait laissé tous ses animaux sans nourriture dans son domaine de Monte Cristo. Et parmi ces animaux, il y avait un vautour. Et donc, Pritchard s'est approché un peu trop près du vautour qui lui a crevé un œil. Pritchard, c'est Alexandre Dumas. Il démarre très bien, il met une folle vie, il finit très bas. Et le chien le plus drôle au point de vue littérature, c'est quand même Moustache, qui a été le chien de Larousse, le fondateur du dictionnaire.
Pierre Larousse.
Pierre Larousse, directeur de l'école normale. Il y a une consolation à un candidat qui a été éconduit, qui est quelque chose d'un petit monument de bonheur. Consolation érudite d'un candidat. Reno Varedo Orem, oui Moustache, il nous faut raviver cette plaie, rouvrir cette cruelle blessure. Tu viens de figurer à l'exposition du jardin d'acclimatation, c'était la première en 1863, et tu n'as rien obtenu, pas même une médaille en chrysocale. Moustache, tu es un fruit sec, et pourtant que d'espérance l'école normale avait mis sur ta tête. Elle t'avait dit à ton départ, tout Marcellus et Ris, quelle chute mon ami, quelle dégringolade. Comment, en un plomb vil, leur pur s'est-il changé? Si je t'interroge, c'est délicieux. C'est un peu long, mais c'est délicieux.
Une autre utilisation aussi peut-être moins délicieuse qui a été faite des chiens et qui reflète certainement le caractère humain, c'est, vous en parliez en préambule de cette émission, l'utilisation pendant la guerre et pendant les guerres. Et notamment, vous citez cet exemple de l'armée de chiens carrément des Indiens.
Les chiens ont été utilisés dès l'Antiquité. Les Assyriens en faisaient un grand usage. Les Perses en ont fait un grand usage aussi. Mais les Grecs avaient quelques chiens. Par exemple, le chien d'Alexandre le Grand lui a sauvé la vie à la bataille de Gaugamel en arrêtant des éléphants qui le chargeaient. C'était un molosse.
Et il y a tous ces chiens aussi qui permettent de détecter...
Détecter les mines. Là, ceux qui ont beaucoup servi à détecter les ennemis qui étaient embusqués, c'était les Dobermans qu'utilisaient les Américains pendant la guerre du Pacifique. Et il y a même un monument qui a été élevé aux chiens de la guerre du Pacifique à Guam. Et les autres chiens qui ont beaucoup aidé les Américains, c'est ceux qui étaient pendant la guerre du Vietnam. Parce que c'était la seule façon de détecter les mines, les Vietcong embusqués. Et le problème, c'est que quand les Américains sont partis, ils ont abandonné tous les chiens, qui étaient considérés comme inutiles. Et donc, on ne sait pas trop ce qu'ils sont devenus. On pense que de toute façon, là, beaucoup ont pu être tués et mangés. Ça se fait un peu dans le sud-est asiatique.
Justement, est-ce qu'on mange encore des chiens aujourd'hui ?
On mange encore des chiens aujourd'hui. Le pays qui en serait le plus grand consommateur serait la Corée. Et puis la Chine, parce que le chien a une réputation, je pense, surfaite de... C'est un aphrodisiaque, quoi. C'est comme les défenses d'éléphants, enfin, les cornes de rhinocéros. Mais on en consomme aussi un petit peu en Afrique. Les Amérindiens consommaient du chien. Ils élevaient les chihuahuas pour cet effet-là. Alors, l'explication que l'on donne, l'excuse qu'on peut avoir, c'est qu'il n'y avait pas de grand animal domestique source de viande et de protéines dans ces pays-là. Donc, les deux seuls animaux qui étaient là, il y avait quelques dindons qui étaient domestiques, et puis il y avait les chiens. Mais ils n'avaient pas de bovins, ils n'avaient pas de moutons.
Heureusement, nous, on a arrêté d'en manger depuis très longtemps en France.
Oui, 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 oui.
Alors, il y a aussi les noms donnés aux chiens par les personnalités. Quel est le nom peut-être le plus marrant que vous avez pu énumérer dans votre ouvrage? Moi, je me souviens d'avoir lu que Lamartine appelait toujours ses chiens fidèles.
Fidèles, oui.
Ça a été sûr de ne pas se tromper.
Absolument. Mais on pense qu'il y en a eu au moins deux, peut-être trois. Voilà. Bon. Il y a Fido aussi qui était très bien vu. Non, les noms...
Les noms restent assez communs ou il y a des noms vraiment originaux?
Il y a des noms qui reviennent régulièrement. Il y a Médor, il y a Zéphyr, il y a Mirza, il y a César, voilà. Et puis sinon, il y a les moustaches, il y a le nombre de noms est considérable. Hein. Par exemple, il y a eu une grande mode d'avoir les Fram, parce qu'il y a eu un bateau qui s'appelait le Fram qui était allé vers le pôle. Et donc, il y a eu tout un tas de chiens qui se sont appelés Fram dans cette période-là, vers les années 1900. Des chiens qui ont des noms de pays aussi, voilà.
Et alors, il y a aussi dans ce dictionnaire, il faut le préciser, de belles illustrations. Et notamment, il y en a une qui m'a interpellé, c'est celle où l'on voit des chiens dans un enclos chasser les rats. Alors, c'était quoi? C'était un jeu?
C'était un
jeu d'argent aussi?
C'était un jeu d'argent. Le rat catching, c'était le divertissement des couches populaires anglaises après le bull baiting, c'est-à-dire la lutte contre les taureaux, où il fallait que le chien pince le museau des taureaux. Et donc, les records de rat catching, je les ai notés. Ça ne se pratique plus, mais ça s'est pratiqué en France aussi, les combats de chiens et de... Voilà, les rat catchers et les rat killers. Les records, c'est 1000 rats tués en 1h40. De record en date du 1er mai 1862. C'est extraordinaire, 1000 rats en une heure.
Est-ce qu'il y a d'autres jeux comme ça que vous recensez dans votre ouvrage?
Il y a eu des choses extraordinaires. Il y a eu des combats de chiens qui sont restés mémorables. Il y a eu un combat dans le New Jersey où les deux chiens sont sortis tous les deux épuisés et les gens se sont battus à la sortie du combat parce que personne n'avait gagné, en fait. Et puis, il y a une histoire que je cite également dans mon livre, un pari pour savoir quel est le chien qui tiendrait le plus longtemps accroché aux ailes du Moulin Rouge. Eh bien, il y en a un qui a gagné, mais il a gagné parce qu'il n'a pas desserré les dents, il était en fait mort sur place. Ah oui, c'est des choses extraordinaires.
Il y a aussi cette histoire du chien le plus agressif, justement, un chien de combat que...
oui.
Qui était inapprochable.
Oui, oui, mais qui a quand même eu une descendance. Hein.
Et dont on a gardé les descendants
se disant qu'ils allaient
peut-être hériter de son agressivité.
Oui.
Et justement, vous dites que la couleur des chiens a aussi une importance ou peut expliquer certains caractères.
C'est ce que disent ceux qui ont écrit ça. Je ne suis pas persuadé du tout.
Non,
je ne suis pas persuadé du tout.
Donc les chiens marrons et noirs ne sont pas plus...
Non, je ne crois pas.
Plus agressifs. Très bien. Et puis, il y a bien sûr le chien du 21e siècle qui serait donc un cousin de Haibo, un robot chien de la marque Sony. Alors, on trouve cet article dans votre ouvrage.
C'est l'avenir, oui.
Est-ce que c'est l'avenir du chien? Est-ce que ça pourra correspondre?
Non.
Est-ce que le chien va disparaître, vous pensez?
Je ne pense pas. Par contre, le chien a de gros problèmes qui sont ceux de la vie dans les villes. Donc, les chiens qui vont rester dans les villes vont être des chiens forcément de petite taille. C'est vrai que Huggy a perpétué la mode des Jack Russell Terrier, mais par contre, il faut apprendre au maître à ce moment-là à contrôler le chien, parce que c'est quand même des chasseurs à l'origine. Hein. Et donc, il y a beaucoup d'utilisation de chiens dans les hôpitaux. On s'est rendu compte, par exemple, que tout ce qui était maison de retraite pour les vieillards, les chiens amenaient beaucoup de joie sur les personnes. Donc, c'est un petit peu cet avenir-là qui est promis aux chiens. C'est bon, il y aura toujours la chasse, parce que je pense que la chasse ne va pas disparaître.
Non, il y a de plus en plus de chasseurs chaque année, d'ailleurs.
Oui, alors, c'est pas forcément...
Mais ça ne veut pas dire forcément plus de chiens.
Ça ne veut pas dire que ce soit des meilleurs chasseurs. Hein. C'était Alain qui disait qu'en fait, il fallait réserver la chasse aux ruraux. Parce qu'eux savaient d'abord tenir leurs chiens, et puis ils savaient ce qu'il fallait détruire, ce qu'il ne fallait pas détruire, etc. Alors que les carnages qui sont faits par les chasseurs des villes, c'est parfois sans fondement. Mais bon.
Avant de conclure, on va aussi parler des chiens qu'on retrouve dans les chansons. Alors il y a Mirza, on en a parlé, il y a aussi Byzance de
Jacques Brel. Il y a Mirza de Nino Ferrer, il y a Byzance de Jacques Brel.
De M. Pierre Perret. Alors Napo, qui est un chien de quelle race? Je crois que vous avez...
Napo, c'est un braque allemand. Et mon chien descend plusieurs générations de Napo, mais il y a eu entre-temps une mutation qui a fait que du braque allemand, on est arrivé aux caractéristiques du braque du bourbonnais, c'est-à-dire du braque courte queue.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que les artistes sont de moins en moins, enfin en tout cas on le sait moins, mais sont de moins en moins accompagnés par des chiens?
On en voit de moins en moins.
L'artiste qui va au café accompagné de son chien, aujourd'hui, c'est dépassé.
J'en ai pas vu, voilà.
Bon, et on pourrait pas se quitter sans aborder peut-être l'un des chiens les plus connus et que vous citez dans votre ouvrage, Monsieur de Montois, c'est Laika, une histoire qui...
Ah, c'est une histoire horrible.
Horrible. Alors, est-ce que vous pourriez nous la résumer?
Les Russes ont envoyé Laika dans l'espace et ils ont dit, regardez, elle se porte bien, tout va bien, etc. Et on a su, beaucoup plus tard, en 2000, qu'au lieu de 7 jours, la chienne avait vécu 7 heures. Et qu'au lieu de mourir d'une mort tranquille, etc., elle avait été littéralement passée au grill par la chaleur qui régnait dans la capsule. C'est une histoire horrible.
On ne va pas se quitter sur ces images horribles, monsieur de Montois. Alors, est-ce qu'on pourrait peut-être parler d'un chien plus humoristique, ce qui est Milou? Alors, Milou qui n'est pas cité,
il sera dans le deuxième tome,
mais il y a pourtant Rintintin. Est-ce que Milou, vous pensez que c'est un chien qui a une importance, même aujourd'hui, dans la culture française, qui est rentré quasiment dans la culture littéraire française?
Oui, Milou est devenu un grand classique. D'ailleurs, le nombre d'animaux qui s'appellent Milou est considérable.
Chiens, la même race que Milou.
Ce qu'on a remarqué, c'est que Milou, en fait, a beaucoup de place dans les histoires de Tintin, jusqu'à ce qu'apparaisse le capitaine Haddock. Et quand le capitaine Haddock apparaît, l'utilisation de Milou par le dessinateur Hergé est beaucoup moins grande. Enfin, Milou a fait des choses extraordinaires, il a sauvé son maître, il aime le whisky, il a déniché un os de dinosaure dans un musée, enfin bon, voilà, Milou est célèbre.
Voilà, Milou est célèbre et c'est sur cette image plus attachante que celle de Leïka, morte dans l'espace, que nous allons nous quitter, André de Montois. Alors je rappelle le titre de votre ouvrage. Alors, qui se feuillette comme ça avec gourmandise, puisque c'est un dictionnaire, donc on peut l'ouvrir le lundi, le mardi, le mercredi et les autres jours de la semaine. Le dictionnaire des chiens illustres, à l'usage des maîtres cultivés ou pas.
Ou pas.
Ou ceux qui voudraient en tous les cas se cultiver et mieux connaître les chiens qui ont marqué l'histoire. Aux éditions Honoré Champion, un livre préfacé par Pierre Perret. Et on vous dit à bientôt donc pour le deuxième tome qui sera réservé aux chiens de fiction.
Aux chiens de fiction, et je vous remercie.
Je vous en prie. Thank you.